Bon, alors j'aimerais bien que vous vous présentiez un peu.
Bonsoir, Pierre-Marie Le Souple, Pim, d'Agora Fidelio, batteur, voilà. Je suis, voilà, c'est tout.
Batteur.
Moi c'est Jouche, je suis à la guitare et au chœur.
Ouais. Voilà.
Donc et Mathieu au Milka au chant.
D'accord. Donc il en manque un.
Et Akira, à la basse, qui gère les problèmes logistiques.
Akira, je suis bassiste.
C'est pas sympa. D'accord. Donc j'ai vu un peu votre discographie. Vous avez fait votre troisième album et un EP. Comment est ressenti le troisième album ?
Pour l'instant, j'avoue que sans... Bah, on va pas dire qu'on est déçu non plus. Hein. Toutes les chroniques qu'on a vues pour l'instant sont en gros toutes positives. À quelques points près, mais c'est normal. Enfin, y a toujours des gens qui peuvent ne pas aimer certaines choses. Mais globalement, on n'a pas eu de chronique qui disait le disque est pourri ou ça nous plaît pas ou quoi. Donc pour l'instant, on est très content.
Voilà, parce que c'est entre positif et très positif, voire des fois ouais. ça nous impressionne tellement c'est dithyrambique. Donc que ça continue. Ouais, c'est vrai que... Pour répondre un petit peu à ta question par rapport à ce que les gens attendaient, tout ça, je pense que on a voulu faire un album plus proche du son qu'on recherchait, dans le sens où on savait ce qu'on venait chercher à la base avec ce troisième album.
Ouais.
Quelque chose de plus chaud, de plus intimiste, de plus charnel. Et a priori, on est arrivé à nos fins sur ça. Et les gens qui apprécient Agora en sont également contents, parce que je pense que c'est ce qu'ils attendaient d'un tel album.
Et vous allez continuer dans cette voie-là ou vous allez changer, justement ?
Pour le quatrième, tu veux dire ?
Oui. Bah, oui.
Mais j'avoue que...
Vous avez des idées sur le quatrième album ou pas du tout ?
Des idées, oui. Après, bon, c'est vrai que cet album-là, bon, ça c'est peut-être pas en général, mais il a été en gros accouché dans la douleur quand même. Parce que il a... Non, mais dans tous les sens du terme.
D'accord.
Dans le sens où il a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a eu des problèmes inhérents à la vie de groupe, n'importe quel groupe aussi, qui sont rajoutés, tout ça, qui ont fait que, bon, voilà, c'est vrai qu'à un moment, on y a toujours cru, mais on n'en voyait pas le bout, quoi, parce qu'il y a plein de choses qui se mettaient sur notre chemin. Mais on en est quand même sorti. Donc on va dire que là, on est quand même dans la phase où on va essayer de profiter de celui-là avant de penser au quatrième, déjà, pour pas non plus faire tout à la va-vite.
Oui, bien sûr.
Donc après, oui, on a dit, bah, je pense que les gens qui connaissent jusque-là ont senti une évolution quand même entre ce qu'on a fait avant et celui-là, même si ça reste fidèle à ce qu'on a fait jusque-là. Mais voilà, donc je pense que cette évolution-là, je sais pas si elle est facile à décrire en même temps, mais bon. Au niveau des compos qui sont peut-être plus rock dans le sens noble, simple du terme, parfois des choses comme ça, on va peut-être aller encore plus par là aussi. On a commencé déjà à poser quelques petites idées pour plus tard, même si on n'a vraiment pas encore établi quatrième album, des dates, des choses comme ça. Mais ouais, on va essayer de continuer dans ce sens-là. Et puis visiblement, même si on avait des doutes, parce qu'on a toujours envie de sortir un disque... Comme disait Milka, les gens pour l'instant ont super bien accueilli, donc a priori c'est qu'on n'est pas complètement déchiré, que ça va, on est dans une voie qui est qui peut marcher,
bonne,
quoi.
Oui.
Enfin marcher, je m'entends, hein, pas commercialement,
oui,
mais peu, voilà.
Oui, il faut faire la différence aussi entre le commercial et ce qui vous plaît. Aussi.
Alors, ça c'est sûr qu'en le faisant, c'était pas notre but, quoi. On n'a pas réfléchi à comment vendre dans les bacs, quoi. Sinon on n'aurait pas fait ce disque en fait, quoi. Mais voilà.
Bon, alors la grande question. Pourquoi Agora Fidelio ?
C'est marrant, on ne l'a jamais posé.
C'est bizarre.
Je te laisse faire là.
Mais vu que c'est un bateau, ouais, moi j'ai fait des réponses. Main bateau, c'est d'après toi, je sais pas, qu'est-ce que tu vois,
c'est
toi
pas con, ça.
La première réponse, c'est dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a été malade, agoraphobe, je sais pas.
Ça aurait pu.
C'est pas court à agoraphile aussi. Hein.
Aussi. Et du coup, vous êtes très fidèle à ce genre de pratique. Non, je sais pas.
De pratique, voilà.
Non, je sais pas du tout, en fait. On a cherché, hein, vraiment, on a cherché, on n'a pas trouvé.
C'est pas trouvable, parce que...
Ce que ça veut dire n'a pas tant d'importance que ça, c'est on voulait plutôt une esthétique sonore, en fait. Donc, Agora Fidelio, c'était un mot d'une certaine, enfin, un nom de groupe d'une certaine longueur, une certaine consonance, une certaine esthétique. C'est plus ça qui nous a décidé de prendre ce patronyme plutôt que la signification très forte qu'il y a derrière. Le seul truc, on va dire, pertinent qu'on peut dire sur le nom de notre groupe, c'est pas non plus quoi, on l'a pas non plus pris au hasard dans le dictionnaire. Hein. Mais le truc fort que moi j'aime bien y voir, c'est que Fidelio est le mot de passe en fait pour la soirée orgiaque dans Eyes Wide Shut, le dernier film de Kubrick. Et donc en fait, le Fidelio est le mot de passe, et en plus le faux mot de passe, donc c'est encore plus tordu. Donc tout ce côté-là un peu charnel, avec beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur eux, mais qui essaient d'y répondre, mais qui n'ont même pas le bon mot de passe alors qu'on les a fait rentrer. Tout ce petit jeu-là me plaisait bien, au-delà du fait que Fidelio, bon, c'est un opéra et c'est d'autres trucs avant d'être un mot de passe chez Kubrick. Mais bon, c'est entre autres pour ça que pour moi ça m'a parlé. Ça...
Et alors tous les quatre, tu parles entre, depuis tout à l'heure, de charnel, de... Ça doit être dur en tournée justement.
Pourquoi? Parce qu'on en fait rien ensemble.
Non mais c'est le mot. Non mais.
Comme tu dis tous les cas, du charnel et tout, je t'arrête.
Non tout mais j'imagine bien que vous avez chacun votre vie privée et tout ça. Mais justement, le manque de ce côté-là, de côté vie privée.
Le manque de sexe en tournée? Non, c'est pas ça que tu dis.
Non, disons que déjà on part pas, vu qu'on n'est pas américain, on part pas 2 ans en tournée.
Non mais j'imagine que tu dois avoir une petite amie ou une femme ou enfin, bref. Ouais. Et tu dois pas l'avoir tous les jours.
Ouais, ouais.
Donc il doit y avoir un certain manque.
Comme ouais, c'est juste que je fais la même réponse, c'est pas vu qu'on est pas américain, on partait 2 ans en tournée.
Le même manque que les DRP ont dans leur travail quand ils partent en déplacement. Que...
Non, le plus long qu'on ait fait, c'est 3 semaines. Donc c'est...
Ils ont moins de groupies, les DRP.
Après, le seul truc à dire par rapport à ça, c'est que musicien, c'est une vie de con par rapport à avoir le fait d'avoir une vie privée. C'est sûr que plus ça marche, plus il faut être habitué. De toute façon, les week-ends, donc peu de monde tu peux avoir avec. Avec ta moitié ou ta famille, bon, ben, c'est sûr que a priori t'es sur la route, quoi. Ouais. Donc le dire étant que plus ça va marcher, moins tu vas voir les gens que tu as autour de toi. Donc voilà, c'est pas évident. En plus après, vu qu'on ne vit pas de ça, sauf que tout le monde cumule des boulots. Donc voilà, c'est pas être musicien, c'est un métier. Et ce n'est pas vraiment un métier facilement conciliable avec une vie privée, une vie super stable, et une vie super rangée. Voilà.
Après, même si la copine de chacun lui manque, les manques ils sont ailleurs, je pense, en fait. Ouais. Vu que t'es en tournée, t'arrêtes pas. Enfin, en tournée, quand c'est une tournée groupée, quand tout se suit, t'arrêtes pas, en fait, tu réfléchis pas trop parce que tu fais de la route, tu joues, tu dors, tu fais de la route, tu joues. Donc, je dirais que les manques ils sont plutôt au niveau de la bonne bouffe, parfois, ou d'un lit, tu vois.
Ou
d'une douche, hein. Des choses comme ça, quoi.
Ça suffit chrono, quand même.
Ah non, mais on en prend tous les jours, mais je parle dans le cadre.
Quand on peut, sinon ça rend
le cadre de la douche, enfin. Non, la douche y est, mais c'est la façon de la prendre qui change. La casserole d'eau chaude. Non.
Comment s'est passé l'enregistrement de votre dernier album, hein?
En termes de... d'ambiance.
Aussi.
Bien, bien, longuement. Ouais. Longuement. Bon, c'était à quel mois on est rentré? Avant Noël, il me semble.
Décembre.
Ouais, donc c'est assez plaisant, je trouve, de faire du studio en hiver.
Ouais.
Parce qu'il y a un côté cocon un peu dans un studio qui est intéressant. Enfin, ça, vu que tu t'amuses pas à aller courir dehors quand il fait moins 15, en fait, ouais. t'es dans ton petit coin canapé, t'écoutes le son, tu joues tout ça. C'est sombre en général, les studios. Donc c'est vrai qu'au niveau ambiance. On connaissait pas le studio où on est allé en termes de travail, enfin on y avait mis les pieds mais on n'avait pas bossé dedans, donc c'est vrai que c'était très agréable parce qu'il est bien bien cosy. Bien
on l'a choisi aussi pour ça, quoi, outre le son, tout ça.
Le lieu était important.
Le lieu à partager au son, je pense aussi. Ah oui, c'était à la Cour des Miracles à Toulouse, donc c'était pas trop loin. Mais c'est un studio qui est reconnu pour ça, tant au niveau de l'ambiance, du son qui est développé, tout ça, ça va dans une sorte d'intimité, un côté un peu cosy, comme je disais, pour employer des anglicismes. Et voilà, ce côté-là, ça ressemblait bien à la musique d'Agora, quoi. Il n'y avait pas un halogène balancé à fond dans le studio, il y avait plein de petites loupiottes, etc. Tout ça partagé à recréer ce côté, on va dire, redire le mot charnel ou employer un autre mot, non, mais pour dire le côté un peu organique du son qu'on a recherché. Et après, pour parler de la personne qui était derrière les boutons, donc Tristan Monquet a été un assistant de choix sur ce disque, donc il a montré un G-son live. Mais il y avait surtout Marc Dubézy, donc, qui est la personne qui a créé La Cour des Miracles, qui est un studio assez réputé dans le milieu, et qui est vraiment un être à part entière, quoi. Vraiment, c'est beaucoup plus qu'un technicien son, qu'un ouvrier du son, dans le sens où c'est vraiment un artiste qui se sert de tout son verbiage, ses outils, sa technique, au service de... d'une œuvre, on va dire, pour être prétentieux, quoi, mais tu vois, d'un projet.
Ouais.
Et il nous a énormément apporté, tant au niveau du son que de la psychologie, en fait, de la manière dont tu as appréhendé les morceaux, les instruments, l'équilibre entre les membres, entre les fréquences développées par chacun, tout ça.
C'est aussi pour ça qu'on a mis du temps, en fait.
Ouais.
Il y a eu le côté temps qui peut être chiant parce que tu as envie de voir la fin du projet, que tu es fatigué, etc. Mais il y a aussi eu le temps positif dans le sens où il a pris le temps. Au lieu de juste faire, ben voilà, tu joues, t'enregistres, c'est fait, voilà, ben, il enregistre une fois, deux fois, trois fois, il fait un essai, 12 essais, 20 essais, une idée qui vient à 2h du matin, on fait un autre essai, et au final, ça peut être chiant, ça peut être difficile, mais ça peut aussi, il y a des moments, faire sortir des trucs que tu n'avais pas du tout prévu. Ouais. Enfin, prévu, c'est pas le hasard non plus, si tu veux, il travaille avec des... Il a des idées derrière la tête, mais au final, il te fait sortir un truc et tu n'aurais pas pensé. Finalement, ben, tu te rends l'évidence, le truc sonne vachement mieux. Enfin, donc il a beaucoup apporté comme ça. Comme il disait, voilà, il n'a pas été juste exécutant, quoi.
Ouais.
Genre juste là pour faire le bouton et le bouton, quoi. Il a apporté sa vision de la musique, ses références à lui et tout ça, quoi. C'est plaisant quand même. Enfin,
oui. Qui c'est qui écrit des paroles, la musique? C'est tout le monde? C'est comment ça se passe?
Ben, les paroles, c'est Milka,
ouais.
Tout seul. Parce que nous on sait pas le faire. Non, après, enfin oui, ça s'est fait comme ça. De toute façon, il le fait bien mieux que nous, donc les paroles, ça nous occupe.
La musique, c'est ce serait mentir de dire que c'est collégial, parce qu'il y a quand même une grosse base de jouges qui arrivent souvent avec des bribes de riffs. Même si, de façon un petit peu moindre, on a pu partir lors de parties chant que j'avais ou de parties basses qu'avait Akira. Mais dans tous les cas, ça. Il n'y a jamais trop d'idées complètes, volontairement d'ailleurs, c'est pas, oui. Pas que ce soit un qui arrive, voilà, j'ai pensé à ça. Ces petites bribes, des idées, sont tout le temps développées au feeling en répète. Et c'est cette magie qui va opérer en répète qui va d'où connaître le morceau en fait. C'est ça qui est assez intéressant avec Agora, c'est quand on arrive à développer quelque chose de ces moments assez fragiles que sont la création commune et. Moi, je sens vraiment une sorte de magie parce que j'ai d'autres projets musicaux, d'autres musiciens, et je ressens pas cette alchimie-là fonctionner à chaque fois. Il y a vraiment quelque chose où on arrive à se trouver, à se comprendre assez facilement et à se trouver. Mais c'est même pas le regard, c'est même pas. C'est qu'on. Basse, batterie, guitare, chant, chacun a son autoroute, et puis on arrive à faire converger les chemins et à savoir où c'est qu'on va aller, où c'est qu'on va s'arrêter. C'est assez intéressant, quoi. Et voilà, la majorité du truc vient de cette alchimie.
Bon, mais écoutez, j'avais quelque chose à rajouter.
Il faut rendre à César ou rendre à Oscar, moi je dirais, vu que c'est lui qui vous a contacté. Voilà que voir Fidelio, les artistes, tout ça, ça existe et ça perdure malgré la crise du disque, malgré le téléchargement, malgré plein de trucs. Grâce au fait qu'il y a des passionnés qui se battent pour, il y a des petits labels indépendants qui sont passionnés, et des gens, des indépendants, des choses comme ça, comme Oscar et Mathieu Arthaud, voilà, qui nous aident depuis longtemps, et voilà, son travail est vraiment très comment dirais-je, très important et finalement très fructueux, et voilà quoi, on lui en est très reconnaissant, et heureusement qu'il y a encore des gens comme ça dans le milieu de la musique. Des vrais passionnés qui défendent des projets en respectant l'artiste et avec vraiment une philosophie du métier, on va dire, noble.
Voilà. Bon. Eh bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bon courage pour ce soir.
Et merci à vous.